Bien, bonjour Église. Nous commençons notre série de David, d'été, la semaine prochaine, la vie de David. Et l'homme au cœur de Dieu, pas toujours été droit, mais on aura cela chaque semaine. Il y aura des podcasts aussi pour la vie de David, la série. Il y aura aussi chaque semaine, il y aura de thèmes de dévotion à propos de cette prédication. Soyez connectés, nous sommes excités pour cette nouvelle série qui va commencer. Mon nom est Brody, un des pasteurs ici. C'est un privilège pour moi de prêcher la parole aujourd'hui, ce matin. Hier, deux de mes amis se sont mariés. La relation a fleuri depuis les années passées. Et hier, on a célébré leur dévotion alors qu'ils se sont dédiés de marcher dans leur vie et savoir. Je pense qu'hier, il y avait trois ou quatre mariages. Et il y en aura peut-être un demain. Et puis, il y a un autre qui s'en vient en été. Et je me demande. Et combien de cadeaux je vais donner. Mais bon, j'en ai. Ok. Dieu nous appelle à. Nous invite à unir notre vie à une autre personne dans un dévouement, à une soumission à vie et devenir ce que Dieu appelle une seule chair. Le mariage reflète l'unité du Christ avec sa propre épouse, l'Église, le peuple qui lui appartient. Il a renoncé à son statut et à sa vie par dévouement pour nous. Et par sa mort et sa résurrection, il nous unit à lui dans un amour sans égal. Mais le mariage n'est pas l'aboutissement pour tous. Certains ne se marieront peut-être pas, ou pourraient sentir que le mariage n'est pas pour eux. Les célibataires vivent-ils aussi la beauté de l'amour de Dieu en Jésus? Ou sont-ils juste droit, ont-ils juste droit à une vie de consolation et un ruban de participation? Ok. À travers cette série sur 1 Corinthiens 5-7, qu'on va lire plus tard, le pasteur Ray va venir lire le passage d'aujourd'hui de 25 à 40. Et si vous êtes capable de vous lever pour la lecture de la parole, vous pouvez le faire. 1 Corinthiens 7, commençant au verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon et à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui unissent du monde, ceux qui usent du monde comme en n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui ne s'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant que sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pèche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, une femme fait une résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis et moi, voici, je crois avoir l'Esprit des dieux. Prions. Père, nous continuons à adorer selon ton instruction venant de la parole. Dès le début de l'Église, merci parce que tu prends soin de ta femme, de ton épouse, et tu nous fais grandir dans la compréhension. Et nous prions que tu ouvres nos yeux, nos cœurs, et que nous puissions voir où que nous soyons, quelle que soit la capacité, et nous savons que tu parles et que tu nous aimes. Et nous recevons ton amour peut-être d'une façon et plus, nous élevons tout ceci auprès de toi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À travers cette série sur 1 Corinthiens 5 à 7, l'apôtre Paul a démontré que la sainteté sexuelle et l'intégrité relationnelle sont liées à notre appel en tant que disciples fidèles de Jésus. Nous sommes habilités par le Saint-Esprit à refléter l'amour de Dieu aux personnes qui nous entourent. En vivant notre appel, quel que soit notre statut terrestre, nous faisons entrer les réalités futures du moyen de Dieu dans notre vie de disciples au quotidien. Nous attendons que Jésus revienne et apporte l'héritage complet de son royaume. Le passage d'aujourd'hui éclaire cette vérité sous un nouvel angle concernant nos relations les uns avec les autres. Notre état relationnel ne dicte pas notre mandat de disciple. Notre état relationnel ne dicte pas notre mandat de disciple. Nous voyons cela en trois parties. Si vous avez la fin à l'esprit, Paul dit que ce n'est pas à propos vivez en ayant la fin à la tête. Il s'agit de l'appel, pas de contrainte. Soyez confiants dans votre décision. Avant d'entrer dans le vif du sujet, considérons le cadre posé par Paul. C'est un peu comme un bullet, des points sur dans un journal. Ces points dans le journal n'a pas de lignes. Un journal n'a pas de lignes. Il n'a que des points suggérant un ordre tout en offrant beaucoup de liberté. Dans ces passages, Paul établit un cadre de liberté fidèle. Les conjoints doivent fidèlement rester ensemble et se donner l'un à l'autre. Ils changent de cible, mais pas de sujet lorsqu'ils commencent cette partie de la lettre en écrivant « En ce qui concerne les fiancés, appliquant le même principe de fidélité d'un trait plus large à toutes les personnes. » Paul reconnaît qu'il n'a pas d'ordre particulier du Seigneur à citer pour les célibataires. Comme dans le langage qu'il a utilisé dans le chapitre 7, 10 et le verset 12. Il y a deux semaines, le pasteur Vin a noté que cela n'invalide pas les paroles de Paul. Et Paul renforce son autorité en ajoutant qu'il donne son avis comme quelqu'un qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Jésus lui a fait confiance comme apôtre. Il a donc le droit d'apporter de l'ordre à toutes les églises, nous-mêmes inclus, nous aussi inclus. Le verset 6 est la sagesse que Paul offre. Je pense donc, à cause des temps difficiles qui s'annoncent, qu'il est bon pour l'homme de rester comme il est. Paul ne pouvait pas citer un enseignement spécifique de Jésus, mais il était inspiré par l'Esprit à travers la vie de Jésus. Paul soutient qu'au vu des circonstances, les gens devraient rester dans leur statut relationnel actuel. Deux choses à retenir de cette introduction. Premièrement, remarquez que Paul dit que nous devrions rester comme nous sommes, reprenant le flux du verset chapitre 17-24, où Paul affirme que le statut social d'une personne ne dicte pas son efficacité dans le royaume. La semaine dernière, le pasteur Ray a noté que l'identité spirituelle d'une personne en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus, cela signifie tout. Paul parlait des personnes dans le passage passé, des personnes libres et des esclaves, tandis qu'ici, il parle des célibataires et des mariés. Il utilise le terme « lié » pour ceux qui sont mariés, établissant des comparaisons avec des esclaves. Mais cela ne signifie pas que vous devriez appeler votre conjoint le vieux boulet. Ne le faites pas, ça ne va pas bien finir. Paul ne donne tout simplement pas l'ordre sur le fait d'être célibataire ou marié, pas plus qu'il n'a donné d'ordre d'être libre ou esclave. Le point n'est pas notre statut visible. Dans le verset 27 et 28, il développe ce point de rester comme nous sommes. Si vous êtes marié, restez marié. Si vous êtes célibataire, restez célibataire. Les Corinthiens hésitaient dans leur engagement envers leurs conjoints et certains célibataires et fiancés envisageaient s'il valait la peine de poursuivre le mariage, tandis que certains mariés envisageaient le divorce. Pourtant, le problème majeur était leur hésitation dans leur engagement envers le Seigneur Jésus, qui est leur véritable amour et époux spirituel. Dans le passé, peut-être pas encore beaucoup, il y avait une tendance chez les célibataires, en particulier les jeunes femmes, à dire qu'elles sortaient avec Jésus dans un effort pour avoir des relations honorables. Mais cela implique qu'une fois que vous voulez sortir avec quelqu'un et vous marier, vous allez rompre avec Jésus. Cela brouille la métaphore. Nous adorons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Son amour est pur et se reflète dans le mariage. Mais il est tellement plus que ce qu'un mariage pourrait démontrer. Alors que Paul considère l'importance du mariage, il ajoute aussi au verset 28 cet avertissement. « Mais celui qui est marié aura des ennuis dans cette vie. » C'est la deuxième chose que nous devrions remarquer. Paul fait référence à la détresse actuelle. Il ne semble pas y avoir eu de grandes détresses à Corinthe au moment de la rédaction, des niveaux normaux de persécution certes, mais il semble que l'Église allait bien humainement parlant, vu l'abondance que Paul mentionne au début de la lettre. Alors, qu'est-ce qu'est la détresse actuelle? Les chrétiens vivent entre la résurrection du Christ et le retour du Christ. Le royaume des dieux a déjà envahi notre réalité par la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et l'Esprit des dieux transforme ses disciples. Mais nous attendons que le royaume soit pleinement intégré dans notre monde lorsque Jésus reviendra. Cette tension génère des menaces d'ennemis spirituels, alors que nous sommes engagés dans un combat cosmique pour notre allégeance, notre dévouement, notre fidélité. Mais comment allons-nous vivre? Dans les versets 29 à 31, Paul nous exhorte à vivre en ayant la fin en tête. Vivre avec la fin en tête. Jésus vient plus tôt que nous l'attendons. Les jours sont comptés. Lorsqu'il reviendra, ceux qui ont consacré leur vie à Jésus ressusciteront d'entre les morts pour partager sa vie éternelle de résurrection, unie à lui en tant que vainqueur du péché et de la mort. tous ceux qui auront refusé son don gratuit de salut dans cette vie seront rejetés par Jésus pour entrer dans cette vie éternelle. Et ils ne seront pas sauvés de l'angoisse, de la douleur et de la mort éternelle. Nous devons considérer quelle fin nous recevrons et vivre aujourd'hui à la lumière de son retour. Pour illustrer cet état d'esprit, Paul donne cinq. Vivre comme si, pour illustrer cet état d'esprit tourné vers l'avenir, parce que Jésus vient bientôt, vivez comme si vous n'aviez pas de conjoint, comme si vous ne pleuriez pas, comme si vous ne vous réjouissiez pas, comme si vous n'achetiez pas. Oui, la Bible parle à propos de votre mentalité d'acheter, comme si vous ne faisiez pas de shopping. Oui, la Bible en parle. Paul veut que nous vivions avec la bonne perspective. Il ne diminue pas l'importance des réalités présentes. Au lieu de cela, il les réaligne. Le mariage n'est que pour cette vie. Soyez sage dans la façon dont vous la passez et avec qui vous la passez. Nous pleurons, mais nous faisons avec la promesse de notre future résurrection, parce que Jésus est déjà ressuscité des morts. Nous réjouissons, mais nous savons que les succès de cette vie passeront. Seul ce qui est fait pour Christ demeurera éternel. Les choses que nous achetons et vendons, notre commerce et nos possessions, ce n'est pas du matériel que nous emportons avec nous. Les corbillards ne sont pas suivis des camions de déménagement. Mais nous pouvons utiliser notre intelligence et notre portefeuille comme des outils missionnels pour faire grandir le royaume des dieux et voir des personnes se confier en Jésus pour la vie éternelle. Voici, Paul ne nous instruit pas de divorcer de nos conjoints, de vendre tout ce que nous avons et de nous déconnecter émotionnellement du monde. Il veut que nous vivions avec notre réalité future envahissant notre vie des disciples présentes. Nous vivons avec l'espérance tangible d'un lendemain meilleur au milieu des événements d'aujourd'hui. Comme il écrit dans Colossiens 3:2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Quand vous déménagez, vous emballez vos assiettes, vos couverts et vos tasses, mais vous devez utiliser la cuisine pendant un certain temps. Vous déménagez bientôt, mais pas encore. La cuisine vous sert toujours pendant que vous préparez les repas et vivez dans l'attente du jour du déménagement. Mais vous ne commencez pas une rénovation la semaine de votre départ. Ou pensez à tout le plaisir que nous allons avoir maintenant que l'été est là. J'adore voir les châteaux de sable construits sur le rivage à la plage. Pourtant, même s'ils sont amusants à construire, la marée finit par monter et emporter le château de sable. Est-ce une perte de temps de construire? Est-ce que c'est une perte de temps de le construire? Non. Est-ce que ça va durer éternellement? Non, non plus. Paul veut que nous saisissions l'éternité même si nous tenons à aujourd'hui. Ne vivez pas comme si c'était tout ce qu'il y a. Bien plus encore est en chemin. Et généralement parlant, nous avons le privilège de choisir les conditions générales dans lesquelles nous vivons dans l'attente de la venue de Christ. C'est notre deuxième point ici. Il s'agit d'appel, pas de contrainte. C'est à propos, il s'agit d'appel et pas de contrainte. Les versets 32, 34, ainsi que 27 et 28 comparent les appels et les responsabilités du célibataire et du marié. Remarquez que Paul s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, valorisant le rôle des femmes à son époque et élevant l'unité unique du mariage tout en offrant une opportunité et un avertissement égaux aux deux genres. Si vous êtes célibataire, vous avez l'opportunité d'être plus directement dévoué aux choses de Dieu. Si vous êtes marié, votre dévouement à Dieu est mis à l'épreuve car vous avez plus de distractions potentielles, plus de choses qui vous inquiètent. J'étais en vol cette semaine. Mon appareil était en mode avion. J'ai pu consacrer du temps à écrire ce sermon sans aucune notification. Je n'avais même pas besoin de faire une pause pour regarder des réels d'Instagram. Heureusement, pas de bébé. Et j'en ai fait. Heureusement, il n'y avait pas de bébé qui pleurait dans mon vol. Seigneur, bénis les familles qui ont ces enfants qui doivent voler avec les bébés qui pleurent. Les célibataires vivent en mode avion. Les distractions sont minimisées. Ils se concentrent et font des choses incroyables pour le royaume parce qu'ils n'ont pas à subvenir aux besoins d'un conjoint ou des personnes à charge. Chers célibataires, soyez en mission pour Jésus avec les temps dont vous disposez. Ne manquez pas l'opportunité de montrer Jésus aux personnes qui vous entourent. Il s'est mobilisé, a répondu aux besoins et allé là où Dieu le conduisait et a servi de manière inattendue et dans les lieux inattendus. Comme lui, vous êtes disponible et capable d'y aller. Célibataire, Dieu t'a confié une mission unique. En comparaison, les mariés doivent diviser son attention. Vous épousez quelqu'un et vous devez trouver un logement et de quoi subvenir à vos besoins. Cela va nécessiter le bon emploi pour payer un loyer, un prêt, de nouvelles factures, plus d'épicerie. Ensuite, vos parents commencent à demander des petits-enfants. Alors, vous pensez, certains d'entre vous sont des parents. Hier, au mariage, plus que 4 fois dans les discours, maintenant c'est votre tour, ce genre d'histoire. Alors, vous pensez à échanger la voiture de sport comme un monospace. Vous cherchez une bonne école et espérez les amener en vacances de temps en temps. Seigneur, bénis les familles qui doivent voler avec des bébés qui pleurent. En chemin, n'oubliez pas que vous et votre conjoint ne faites maintenant plus qu'un, donc vous devez apprendre à agir en unité dans vos désirs, vos objectifs et vos rêves. Comment vous disposez de votre temps libre? Chers mariés, soyez en mission pour Jésus avec les temps dont vous disposez. Ne manquez pas l'opportunité de montrer Jésus au conjoint que vous avez, alors qu'il aime son Église et répond à nos besoins. Nous servons de manière inattendue et dans des lieux inattendus. Ne manquez pas l'opportunité de démontrer la sainteté aux enfants que vous pouvez avoir et au moins au monde qui vous entoure, en aimant et en vous sacrifiant pour votre conjoint, votre famille. Marié, Dieu t'a confié une mission unique de la part de Dieu. Dieu t'a confié une mission unique. La réalité est celle-ci et c'est l'argument central de Paul, verset 35. J'ai dit cela pour votre bien, ce n'est pas pour vous prendre piège, mais pour vous indiquer la bonne voie afin que vous soyez attachés sans partage au Seigneur. Dans les deux cas, marié ou non marié, notre dévotion est d'abord et avant tout pour le Seigneur. Donc, si vous restez célibataire, très bien. Et si vous vous mariez, très bien. Une personne appelée au célibat est dans le péché si elle est constamment à la recherche ou à la poursuite de la prochaine relation. Une personne appelée au mariage est dans le péché si elle esquive cet appel et évite la direction de Dieu. « une personne appelée au mariage est dans le péché si elle n'accomplit pas les sacrifices. On ne reproche pas à un marteau de ne pas être un tournevis. Chacun a son utilité et chacun excelle lorsqu'il est utilisé correctement. Mais ils ne sont pas interchangeables. Et de la même manière, nous devons connaître, nous devons comprendre notre goal, notre mission spécifique. De la manière, nous devons connaître notre but et notre mission. Soyez clair sur votre appel et ne vous contraignez pas en pensant que vous devez rester célibataire et que vous avez besoin d'un conjoint. Will était un jeune homme qui aimait Jésus. Il tomba amoureux et épousa une chrétienne nommée Dorothée. Ils eurent des enfants, mais quelques-uns moururent en bas âge. Bien que mis à rude épreuve, ils continuèrent dans la fidélité l'un envers l'autre et envers leur famille. Will sentit un appel à la mission outre-mer et supplia Dorothée de l'accompagner. Elle résista, mais sous la pression d'amis, les promesses de la famille et par la prière et beaucoup de prières, elle céda et la famille déménagea. La mission fut difficile. Et Dorothée endura d'immenses souffrances. Il était physiquement malade et notre enfant mourut en mission. Elle devint mentalement malade, souffrant d'angoisse et convaincue que Will la trompait. Finalement, sa maladie dégénéra en un accès de violence qui nécessitèrent son internement pour sa sécurité et celle des autres. Bien que le journal de Will montrât un grand remords et le soutien d'amis compétents, la guérison ne vint pas. Dorothée mourut après 12 ans sans résolution à son état. La dévotion de William Carey pour le Seigneur dans les années 1800 en Inde mena à une révolution des missions modernes. Mais sa dévotion envers sa propre famille fut marquée par des défis non résolus. Nous devons discerner notre appel avant de considérer une vie de célibat ou de mariage. Dieu ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Alors, à quoi pourrait ressembler ta dévotion? En tant que célibataire, vous avez moins d'obligations financières. Vous pourriez soutenir un missionnaire ou une équipe missionnaire. Je sais, je devrais. Vous pouvez éviter certains des crises que Will et Dorothée ont connues. Nous avons un stand dehors. Vous pouvez partir, vous pouvez prendre un livre, vous pouvez prendre un signet, vous pouvez donner pour la mission. Vous pouvez partir en mission vous-même. Ou faire plus souvent des bénévolats locaux avec un temps flexible que vous avez. Vous pourriez mentorer des jeunes hommes ou femmes sans compromettre vos propres enfants. Vous pouvez investir plus d'heures dans les études bibliques. Vous pouvez et puis venir à 10 heures. Vous pouvez beaucoup étudier la parole et cultiver des amitiés dans la foi avec. Vous pouvez cultiver des amitiés dans la foi qui dureront dans l'éternité, même quand le mariage prendra fin. Vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous chaque soir. Donc, vous pouvez être présent dans des tragédies au milieu du désespoir tard dans la nuit. Il y a beaucoup de libertés qui viennent avec le célibat. En tant que marié, vous pouvez ne vous sentez pas mis de côté. Vous pouvez faire aussi selon vos. Vous pouvez prier avec votre conjoint chaque jour à haute voix. Je vous pour que vos cœurs, esprits et âmes soient unis. Priez à haute voix chaque dans la sécurité de votre union. Vous pouvez vous engager à résoudre des conflits en vous tenant la main et en vous regardant dans les yeux pendant une dispute. Parce que vous pouvez accueillir une réunion des couples et mentorer les jeunes mariés ou partir en mission ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, ce n'est pas une exigence du mariage chrétien. Au cas où vous, désolé pour les grands-parents, c'est pas l'appel de tous. Dieu a beaucoup de choses pour vous, peut-être qu'il ne vous donnera pas des enfants. Vous pouvez adopter aussi quel nombre que vous voulez. Si vous avez des enfants au-delà de vos capacités, comment est-ce que vous allez les faire grandir? Je parle à propos de frères et sœurs qui sont dans cette salle avec lesquels nous marchons ensemble, qui sont liés à nous par le sang de Christ, ou avec lesquels nous sommes devenus même de la même famille ensemble. Mes parents lisaient les Écritures et nous apprenaient à prier après le dîner chaque soir. Ils nous ont inscrits à la chorale des enfants et au groupe des jeunes à l'étage inférieur pour que nous puissions nous faire des amis dans la foi et grandir dans notre propre quête de Jésus. Ils faisaient en sorte d'utiliser la table des salles à manger pour être curieux et d'être présents dans nos vies. En tant que famille, quand vous êtes capable, dans la mesure du possible, consacrez l'heure du dîner à être ensemble. Je sais que ça ne peut pas être pour tous, mais je comprends. Mais les statistiques montrent que la famille qui partage les dîners sont engagées les unes envers les autres. Ils restent ensemble pour une longue durée. Ou réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous engager envers votre communauté de foi. Vous devez peut-être dire non à certaines activités car cela limitera votre capacité à être avec d'autres croyants. Vous devez peut-être dire oui à certaines activités pour être auprès des personnes qui ont besoin de vivre l'amour de Dieu à travers votre famille. Vous pourriez être la maison. Vous pourriez être à la maison et à vos enfants amener leurs amis. Vous pourriez être à la maison où vos enfants amènent leurs amis après l'école parce que vous êtes un espace sûr, sacrifiant un espace propre et rangé pour que ces jeunes se sentent chez eux. Ils s'en rendent peut-être pas compte, mais votre transformation par l'Évangile signifie leur ouvrir le bras aussi grand que Jésus l'a fait pour vous. Le dévouement au Seigneur s'exprime de multiples façons. Les points de l'Évangile dans le journal de votre vie vous donnent la liberté d'exprimer votre amour. Votre Sauveur était célibataire durant son temps sur terre. Donc, si vous êtes en bonne compagnie et que vous restez célibataire, votre Sauveur est fidèle à son épouse, l'Église, et l'épousera à son retour. Si vous êtes marié ou pas, demeurez tel que vous êtes en bonne compagnie. Votre Seigneur connaît les deux côtés. Quelle que soit votre décision, dire que je le veux ou je ne le veux pas, soyez confiant dans votre décision. Ayez confiance à votre décision. Dieu ne microgère pas votre vie. Si vous attendez que Dieu dépose le conjoint parfait sur votre chemin, vous attendrez longtemps. Ou bien ça va prendre le temps que Jésus revienne parce que c'est lui le parfait. Cependant, que vous vous mariez ou non, vous pouvez rechercher activement Jésus et devenir plus semblable à votre Sauveur en apportant l'Évangile partout où vous allez et en étant transformé par lui en chemin. Ma petite amie est bien aimée quand je suis plus comme Jésus. Elle est pleine de grâce et m'aide à grandir. Dans les versets 36-40, Paul dit que si quelqu'un brûle d'envie de se marier, il devrait se marier. Si quelqu'un est capable de se retenir et d'être uniquement dévoué au Seigneur, Paul dit que c'est encore mieux. Mais les deux sont bons et honorables. Paul inclut la veuve qui a perdu son conjoint. Il note que le mariage est à vie. Donc, chrétiens de 2025, ne soyez pas légers dans votre décision. Vous ne pouvez pas vous retirer une fois engagé. Vous restez fidèle à vos vœux pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté. Mais Paul autorise le remariage dans le cas de « jusqu'à ce que la mort nous sépare » et écrit seulement dans le Seigneur. Dans le verset 39. Il souligne cette idée, l'importance d'épouser un autre chrétien. Rappelez-vous, Corinthe était une église mixte. Donc, certains couples étaient composés d'un chrétien et d'un non-chrétien. L'un n'avait pas encore rencontré Jésus. Paul connaît l'intensité intime du mariage et l'importance de s'unir à quelqu'un qui partage l'Esprit de Dieu. C'est une bonne parole pour nous aujourd'hui. Chrétiens, seule une personne qui aime Jésus vous aidera à lui ressembler. Choisir quelqu'un qui n'aime pas Jésus compromet votre engagement envers Jésus et défie votre dévouement envers lui. Et je dis cela pour les non-croyants et pour aussi les croyants qui ne vivent pas dans la plénitude de leur appel. Pas tous sont conviennent au mariage ou non. Paul dit aux conjoints de rester avec leur conjoint incroyant n'est applicable que lorsque les deux étaient incroyants et que l'un s'est converti. Paul dit « Restez ensemble parce que vous êtes déjà mariés, mais nous ne flirtons pas pour convertir. » Si vous n'êtes pas chrétien, mais que vous sortez avec ou êtes intéressé par un chrétien, demandez-vous à quoi ressemblera votre relation plus tard. Qu'est-ce que vous compromettez en étant avec eux? Où voyez-vous les accords entre votre vision du monde et des valeurs que vous ignorez, les leurs ou les vôtres? Être inégalement lié mènera à des conflits, peut-être de l'amertume et certainement des défis dans votre relation. Si vous sentez l'Esprit vous convaincre, ne l'ignorez pas. Il te connaît, il t'aime. Il te montrera un nouveau dévouement au Seigneur alors que vous vous soumettez vos relations à sa direction. Alors l'Église est là pour ceci et pour nous. L'Église est là pour vous aider à grandir dans ce dévouement. Cela signifie aussi que si un ami compromet ses relations, vous avez le privilège de lui poser des questions avec amour, nous prenons soin les uns des autres. Deux croyants qui se poussent mutuellement vers Jésus toute leur vie est le but du mariage et la meilleure façon pour un couple de démontrer l'évangile au monde. Mais Paul n'interdit pas le remariage si un conjoint meurt, même s'il dit que celui qui reste est plus heureux s'il reste célibataire. Paul donne une directive spirituelle et permet que cela forme la conclusion pour chaque croyant. Dans ses directions aux fiancés, aux célibataires et aux non-mariés, Paul offre une boussole, pas une carte routière. Il fixe un objectif, pas un déroulé minute par minute. Il y a la liberté de se marier et la liberté de rester non-marié. Nous ne pouvons pas gaspiller notre temps ou attendre que Dieu agisse pour nous. Nous avons notre mission, il travaille, il est toujours. Et nous avons notre mandat de disciple. C'est quelque chose que nous avons explicitement reçu de Jésus. À la fin de Matthieu, il dit, allez, faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris et je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Et Jésus dit, alors partez, j'ai toute autorité et je vous la donne, ceci est votre mission. Et cette sagesse de Paul devient notre... se marier ou ne pas se marier, dire oui ou non, où je le veux. Dans tous ces choix, nous nous soumettons à Jésus, obéissant à sa voix et en nous dévouant premièrement à lui. Notre état de relation ne détermine pas notre mandat. Nous sommes tous appelés à cette mission. Il n'est pas nécessaire de faire pression sur quelqu'un. Si vous ne vous sentez pas appelé à vous marier, vous êtes béni. Si vous vous sentez appelé à vous marier, vous êtes béni. Les deux sont bons. Alors, marchons ensemble avec humilité. Maintenant, nous pouvons prier pour une passion alignée sur la volonté de Dieu pour nous et nous pouvons nous unir à nos prières à celles de nos frères et sœurs. Peut-être que cela nous mènera à une relation. Nous avons des groupes ici dans lesquels les hommes et les femmes peuvent marcher avec les jeunes. Il y a des groupes, beaucoup de différentes façons d'être en communauté. Et peut-être ces prières vont conduire à une relation, peut-être pas. Notre prière et notre passion devraient nous conduire dans une relation profonde avec notre Père éternel qui nous aime et avec notre époux qui est Jésus-Christ et qui revient bientôt pour célébrer son union avec nous. Alors que Paul dit dans le verset 40, « Nous avons l'Esprit des dieux qui nous unit dans la dévotion à Dieu et nous lie les uns aux autres. Que nous soyons mariés ou non, nous avons notre mission. Soyez dévoués à Dieu dans tout ce que vous faites. Nous restons entre les mains capables de Dieu alors qu'il établit son royaume à travers nous ensemble. » Nous avons quelques questions de réflexion que vous pouvez considérer pour les prochaines minutes et on va passer un temps de prière. Les responsables des groupes, et les anciens et ceux qui sont chargés de prier, vous pouvez passer devant pour prier. Si vous avez une requête, si vous avez une quelconque requête, vous pouvez passer devant, vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là pour vous. Quelle que soit la raison, la requête, vous pouvez passer devant et quelqu'un va prier avec vous.